Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Vous êtes bien sur les ondes d'univers 99.9. Pour cette édition de Logosphère, nous diffusons les entretiens que Dorian Marie et Eva Méheux ont menés durant leur périple à vélo qui les a vus sillonner les routes du sud-ouest de la France en mars dernier, à la rencontre des différents animateurs et participants de tiers-lieux, qui sont des lieux de vie sociaux, écologiques, économiques et culturels des différents villages et villes où ils se sont arrêtés. Pour ce quatrième épisode, Dorian et Eva se trouvent à Bagnères-sur-Bigorre, à la rencontre du tiers-lieu en Bigorre, dont ils vont interviewer le président et le coordinateur, qui vont nous faire la visite de ce lieu ainsi que de nous parler de l'histoire et des activités de ce tiers-lieu. Sur la route des tiers-lieux, à vélo avec Dorian et Eva, c'est tout de suite sur Univers 99.9.
La plupart des gens ont des boulots qui nous relient quand même au territoire, à la vie locale. Ça, c'est les restes de ce que c'était ici.
Donc, une succession de petites boîtes aux lettres. Contrôle de gestion, compta, Alstom. Donc là, on redescend. Et ça sent de plus en plus le malt.
Oui.
Là.
Il n'y a personne aujourd'hui. Demain, Barbara vient.
Donc, nous sommes face à une porte psychologue enfant adolescent et thérapie familiale et conjugale. Donc, c'est le domaine de la psychologie ici.
C'est ça, c'est un cabinet qui est destiné à des thérapeutes hein, au sens large, et c'est un cabinet mutualisé.
D'accord. Donc avec la salle d'attente et puis le lieu de consultation. Donc c'est mutualisé entre deux personnes.
Actuellement.
Actuellement deux personnes. La psychologue, c'est une psychologue scolaire qui se lance en libéral. L'autre, c'est une thérapeute familiale qui vient d'arriver sur le territoire. Mais en pleine période où c'est très difficile de lancer une activité, en fait. Parce qu'effectivement, je pense qu'on peut assez facilement arriver à mutualiser entre 5-6 personnes de manière très régulière le bureau.
Ouais. La plupart des locaux qu'on voit sont des locaux qui ont été transformés. Hein, et ce n'était pas du tout comme ça au départ. Ça n'existait pas du tout comme ça. Le coworking, c'était une succession de petits bureaux. On a quand même fait beaucoup de travaux au fur et à mesure.
Ça vous a pris combien de temps de faire tous ces travaux?
On a fait au fur et à mesure, en fait. On ne peut pas dire... On a fait au fur et à mesure qu'on avait un peu des sous, on a fait au fur et à mesure qu'on avait des demandes. On répond plutôt... On n'a jamais eu la capacité financière et de se dire sur plan, mais voilà, on va faire ça, ça, ça et ça, et ça servira à ça, ça et ça et ça. Ça, c'est dans les bureaux d'études. Peut-être que ça existe, mais dans la réalité comme ça, quand on n'a pas de sous au départ.
Et puis ça s'est fait en fonction des demandes aussi.
Voilà, oui, oui.
Sur les besoins.
Donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté bricolage. Souvent, on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait, c'était pas exactement ce qu'il fallait faire, parce que la demande qu'on avait n'était pas exactement ça, ce qui correspondait à ce qu'on avait fait. Bon, donc il y a eu beaucoup de... Il y a eu des erreurs, il y a eu des choses transformées. C'était en très très mauvais état au départ. Il y a plein d'endroits qu'on a reconçus. Et on est très loin d'avoir fini.
Ouais, c'est un petit côté patchwork assumé. Sachant que maintenant on réfléchit réellement à du zonage d'activité.
Alors là, l'odeur de malt se fait vraiment très forte. Et on est face au brasseur de la Dour.
On peut passer là, c'est fermé.
Ah, mais j'ai la clé.
Ah, c'est le maître des clés.
Mais je suis content que ce soit fermé, je vais te dire. C'est plutôt une très bonne nouvelle.
Ouais. Oui, facile. Facile de ça. Alors là, on change d'odeur. Ça sent plus le malt, mais le cambouis, le caoutchouc de pneus. Et puis, hop, on se faufile. Le long d'un Volkswagen, un multivan. Et ça s'active. Bonjour. Bonjour. Un indice.
Oui, là, tu es dans un atelier.
Alors, on est où ici?
Dans un atelier mécanique où des gens lui, c'était un adhérent, par exemple. C'était un adhérent du garage associatif. C'est ta voiture ?
Stagiaire.
Ah, t'es stagiaire. Oui. Donc, ça, c'est un garagiste qui est là, derrière. Dans la voiture, là, j'ai vu rentrer le chef garagiste, on va dire. Enfin, celui qui est le plus qualifié, Rémi.
Donc ici, c'est un garage ouais, associatif.
C'est la première chose qu'on a montée, en fait. Hein, c'est le garage associatif. Hein. Et voilà, c'est un garage qui a 4 ans maintenant, qui travaille un peu avec le conseil départemental, qui est autonome. C'est une association qui s'appelle Le Carvan, qui est complètement autonome, qui n'est pas du tout... Et qui participe aussi à la vie, forcément. C'est, on va dire que c'est le plus problématique à cause de l'espace qu'il leur faut, des pollutions, de... Voilà. Ouais. Un peu en relation directe avec le garage, quand même. Et il retape des vieilles voitures. Voilà. Donc, petit à petit...
Donc là, on est encore dans le tiers-lieu.
Oui. On est toujours dans le tiers-lieu. Oui. Sauf qu'on n'est plus dans le même bâtiment.
Ouais.
On est dans le bâtiment...
Et alors, comment tu fais pour faire cohabiter tous ces mondes un peu différents sous un même toit, il y a des temps de réunion, de régulation de...
Ouais, il y a quelques mois, j'ai fait le constat que les coopérateurs ne se connaissaient pas tous entre eux, notamment entre ceux du bâtiment A et ceux du bâtiment B. Ce qui est gênant pour une asso qui veut rayonner vers la mixité sociale de ne pas arriver justement à mixer à l'intérieur. Donc j'ai organisé des petits déjeuners des coopérateurs. J'en ai fait 4 ou 5. Et du coup, tout le monde s'est rencontré. Donc au moins, tout le monde se connaît. Sauf que j'ai pas touché. Il y a des gens qui n'étaient pas dispo le matin. Donc là, je reprogramme des café-cop. L'idée, c'est entre 13h et 14h que les coopérateurs viennent. Il n'y a pas d'ordre du jour. Il n'y a pas d'obligation de rester. On vient, on discute. Moi, ça me permet de recueillir des besoins, des envies. Moi, mon boulot, c'est de structurer du projet. S'il y a des gens qui ont envie de faire des choses, alors je ne vais pas le faire à leur place, mais je vais les accompagner.
Bonjour.
Et c'est de là d'où vient l'odeur de
Et là, très, on est à la source.
Voilà, la brasserie, donc montée de A à Z.
Ouais, donc on voit donc des cuves.
Il y a quand même un gros investissement. Tu vois, c'est pas quelque chose qui s'est fait immédiatement. Et là, ça fait 4 ans, ouais, je crois qu'ils sont là. Depuis le début.
Ils ont fait partie des fondateurs.
Oui, le garage, ouais. C'est les deux premiers qui sont
venus. D'accord. Bonjour. C'est pas du direct. Hein, donc.
Okay.
Donc vous êtes là. Donc ici vous faites de la bière, donc c'est la brasserie, le nom c'est.
Alors nous c'est les brasseurs de la Dour. Ouais. Les deux, ma belle et moi.
Vous faites quel volume ici?
On est à 200 hectos à l'année. C'est pas une grosse production par rapport à d'autres brasseries, mais ça nous permet. D'en vivre pour l'instant et nous au grand maximum on vise 350 hectos, voilà, c'est qu'on vise un marché très local,
ouais.
On va pas plus loin que Toulouse ou Pau. Voilà, c'est...
Et vous restez dans cet espace, dans le tiers lieu?
Ouais bien sûr, ça fait 5 ans, bah, depuis qu'on a le projet de la brasserie on est installé ici, en fait au départ on avait qu'un espace, on a agrandi 70 mètres carrés en plus. Et voilà, donc ça nous permet de développer notre activité tout en participant à un projet en commun sur le tiers-lieu, sur le territoire.
Ok, merci.
Ouais.
Bon, ça sent très fort. Ça sent bon. Donc, si je reviens sur le principe de coopérateur, donc chaque occupant permanent, je sais pas comment vous les appelez.
Coopérateur.
Et à voix au chapitre.
Oui, absolument.
D'accord.
C'est le mode de gouvernance qu'on a choisi. C'était pas évident au début. Au début, ça a été très théorique. Et c'était pas des gens qui avaient. On est parti sur un plan un peu bénévole, c'est-à-dire plein de gens plus par. Par militantisme, par idéologie aussi, c'était branché sur le tiers-lieu, mais sans avoir de projet concret. Et en fait, il en reste quelques-uns, mais maintenant, c'est que des gens qui ont des projets concrets.
D'accord.
Ouais. Tous les coopérateurs, à majorité, sont des gens qui ont des emplacements. Qui, ouais. Moi, je suis un des rares à avoir aucun projet ici.
D'accord. Et l'histoire dessus, comment est arrivé un tiers-lieu ici à Bagnères-de-Bigorre ?
Au départ, on avait organisé un festival Alternativa.
D'accord.
Tu dois connaître Alternativa.
Oui.
Ouais. Voilà. On a tous travaillé pendant 2 mois là-dessus. Les gens se sont un peu découverts, se sont un peu plus. Et c'est ce groupe-là, quand je parlais du groupe de départ, de bénévoles, mais qui n'avaient pas de projet comme il peut y avoir là. Mais on se connaissait déjà tous quand même. Hein. Mmh. Mais au départ, il n'y avait aussi personne qui avait vraiment de projet concret, à part le garage et la brasserie, c'est tout.
D'accord.
Voilà. Et les autres, tout est arrivé comme ça au fur et à mesure.
Et alors c'est quoi? C'est un besoin de trouver des espaces qui vous a réunis pour...
Non, je crois que c'est un besoin de faire les choses un peu différemment. Voilà, une économie sans profit déjà, bon, ça a l'air de rien, mais c'est quand même très important. De faire en commun, de faire à plusieurs, de mutualiser, de créer un peu des réseaux associatifs, c'est toute cette idée-là. Voilà. Ça sert, par exemple, quelqu'un qui serait céramiste, par exemple, et il a un réseau un peu de connaissances. Quelqu'un qui débarque comme ça, il va rencontrer plein de gens, il ne va pas rester isolé, etc. Ouais. Après, bon, je vois, quand on voit des ados, c'est souvent des enfants. Bon, c'est un lieu de vie aussi, hein. Ça n'est pas qu'un lieu de travail. Ça aussi, c'est hyper important.
Oui. Et Laurent, combien il y a de personnes sous ce toit, sous ce lieu de vie ?
Une bonne trentaine, en fait. Ouais, ça oscille entre 30 et 35 personnes, avec à peu près une vingtaine qui ont des espaces permanents et des gens qui tournent, qui font des choses sans avoir d'espace, enfin, qui prennent le café pour des ateliers ou la salle d'expression pour des ateliers.
D'accord. Et alors, on évoquait tiers-lieu. Enfin, c'est quoi votre définition à vous du tiers-lieu ?
Déjà, il faut que ce soit un espace physique. C'est pas un truc, une idée abstraite. Il faut qu'il y ait un lieu. Bon, ça, c'est fondamental qu'il y ait un lieu. Moi, j'aurais dit, c'est la diversité. C'est le mélange un peu des différents statuts qui ne se croisent pas autrement. D'ailleurs, on en souffre beaucoup. L'associatif, c'est mis d'un côté. Personne, si tu vas dans une entreprise, personne n'a idée de ce qu'est une association. C'est complètement séparé. Voilà. C'est l'idée aussi d'ouvrir un peu toutes ces portes. Une entreprise qui est confrontée à des artistes aussi, à tout ça. Voilà. C'est de créer un lieu de vie, un lieu où plein de gens passent, où il y a de la rencontre, il y a du lien social. Ça, c'est une des bases, moi, je dirais, du tiers-lieu, le lien social, par rapport au reste, où c'est pas le but. La plupart des entreprises, même si les gens, ils aimeraient bien qu'il y ait un peu de lien social, non, c'est pas le but.
D'accord.
Ici, c'est le but, le lien. Moi, je suis là uniquement à cause de ça. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'arriver à concilier des gens très différents.
D'accord.
Ouais.
Est-ce que c'est source de richesse ?
Oui, absolument. Ouais. Et de tolérance, et un peu d'universalité. Voilà. Moi, je pense que c'est une idée fondamentale, d'avoir des pensées un peu universelles. Dans la mesure où on est 7 milliards sur Terre, il vaut mieux avoir des idées universelles.
Pour bien s'entendre.
Minimum. Voilà.
D'accord.
Moi, je souscris totalement à la définition d'Yves et je rajouterais l'initiative citoyenne. C'est-à-dire que pour moi, un tiers-lieu, ça vient d'un collectif, une asso de fait ou de droit, peu importe, mais c'est... Je vois assez régulièrement des tiers-lieux impulsés par la collectivité, voire totalement organisés par la collectivité. Et c'est quelque chose qui me paraît totalement absurde, en fait.
Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Ben, les dynamiques ne s'enclenchent pas.
Ce n'est pas leur rôle, en fait. Mmh. Qu'ils accompagnent, je trouve ça très intéressant. Qu'on travaille avec eux, c'est évidemment indispensable. Mais ça ne correspond pas à une envie citoyenne de faire les choses là. Si on voit le résultat de ça par rapport à l'environnement... Il n'y a qu'un collectif citoyen qui peut mener ça. Une collectivité ne peut pas accoucher de ça et de ce résultat-là. Elle ne peut pas.
qu'elle y participe, oui, avec ses spécificités.
Mais qu'elle nous accompagne.
Voilà, qu'elle accompagne. Oui, c'est des partenaires indispensables.
Voilà, mais c'est ça.
Mais après, c'est pas dans, dans leur capacité, de toute façon. Ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de bénévolat. Il y a un certain état d'esprit. Voilà. Alors, nous, on est dans, un peu dans la situation particulière où on a peut-être fait ce tiers-lieu contre. Contre.
Au début, oui.
Oui, c'est un peu ce dont j'ai parlé.
Oui.
Mais on n'est pas le seul, hein, parce que j'avais rencontré des tiers-lieux qui, eux aussi, n'arrivaient pas à établir des rapports avec les collectivités locales. Alors, c'est sûr que si une collectivité porte un jugement extérieur à nous, c'est-à-dire qu'il voit des gens qui ne sont pas tout à fait dans la norme entreprise, ils ont du mal à saisir. Voilà. Je pense qu'ils ont eu ça a été très long pour qu'ils comprennent ce qu'était un tiers-lieu, justement. Mmh. Effectivement, ce qui nous poussait, c'était la création du lien social et pas une aide aux entreprises. Pour eux, un tiers-lieu, quand on questionne la mairie, c'est essentiellement une aide aux entreprises. C'est pas, ça ressemble plus à une pépinière d'entreprise que voilà. Et moi, je trouve que c'est un peu dévoyé. L'idée de tiers-lieu est intéressante, justement. Elle a sa place complètement dans une société qui se déshumanise un peu,
qui fonctionne beaucoup en silo,
en
cloisonné.
Ouais. Ouais, puis on peut dire que le modèle économique, c'est un outil, c'est pas une fin en soi.
Ouais,
et du coup, eux, souvent, les tiers-lieux sont. Ils visent qu'un modèle économique performant. Mmh. Mais ça, je trouve ça très peu intéressant.
Et vous, votre modèle économique, donc en jargon, ça veut dire de quoi vit le tiers-lieu ?
Ouais. Eh ben, de quoi vit le tiers-lieu ? Je dirais de deux choses principales. Des loyers des coopérateurs, c'est-à-dire qu'ils louent des espaces, et d'un partenariat avec la région pour le dispositif de formation, en fait.
On a eu un partenariat aussi, la Fondation de France nous a aidés. Après, on a un peu de partenariat avec le département, surtout le garage.
On a des aides d'État.
On a des aides d'État.
On a un demi-poste FONGEP.
Un demi-poste FONGEP.
Du FDVA.
Oui, on a un peu de FDVA.
Des fonds publics qui viennent abonder la partie salariée, là, du coup.
Salarié ou projet. Le FONGEP, c'est directement salaire, mais le FDVA, c'est pour le projet. Ouais.
Okay. Donc, dans cette grande boîte à outils, je la vois comme une grande boîte à outils, ce tiers-lieu où il y a des artisans du bâtiment, des artisans brassicoles, qu'est-ce qu'il y a des auto-entrepreneurs, un garage associatif, des artistes. Enfin bref, dans la visite, on a vu. J'ai perdu le fil.
Boîte à outils.
Oui, donc par rapport à tout ce monde-là, voilà, ce lieu-là, c'est un peu une caisse de résonance, un outil en soi de facilitation de toutes ces activités, en plus de la rencontre, de la diversité, etc. Quoi. C'est un peu tout ça ce qui se passe ici, dans cette grosse boîte.
Ouais, et je dirais que j'ai un autre objectif, parce que là, on arrive à faire cohabiter et à travailler ensemble des associations et des entreprises. On va séparer ces deux mondes-là qui sont effectivement séparés. Et je ne désespère pas d'arriver à travailler avec les collectivités locales, qui est le troisième maillon, pour que, en fait, moi j'ai l'idée derrière aussi que de faire tomber toutes les représentations. Il y a des forces et des faiblesses de chaque type de structure. Les associations sont très fortes en rapidité de monter des projets. Elles sont beaucoup moins puissantes en ce qui concerne la gestion. Les entreprises, elles ont de fait des modèles économiques performants. Et les collectivités, elles ont accès à d'autres types de fonds, et aussi elles sont en lien avec tous les autres acteurs du territoire.
Puis donc elles ont une légitimité aussi.
Ça. Donc l'idée, c'est d'arriver, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce soit un outil au service du territoire, tout simplement.
Une fabrique du territoire.
Ouais, exactement.
Voilà, c'était l'épisode 4, partie 2 sur la route des tiers-lieux à vélo d'Eva et Dorian au tiers-lieu en Bigorre, à Bagnères-sur-Bigorre. Un tour à vélo sur les routes du sud-ouest de la France que vous pouvez retrouver sur le www.radio-univers.com.